Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Blaise Shindani Kambala au micro. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici d'abord les titres. Plusieurs écoles de la sous-division Moba 1 dans la province du Tanganyika sont touchées par des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika et les débordements de la rivière Mulobozi. Cette situation dure depuis le début de cette semaine. Conséquence, des centaines d'élèves n'étudient pas normalement. En Ituri, les forces conjointes FARDC-UPDF mènent depuis mardi des opérations de traque contre les rebelles des ADF dans deux localités dans les territoires de Mambasa. L'objectif de ces opérations en cours depuis un mois est de démanteler les bastions de ces rebelles afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. L'invité de ce journal est Mathieu Yaliré, chercheur au département de géochimie de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il revient sur les menaces permanentes liées au gaz toxique appelé mazoukou, un dioxyde de carbone naturellement présent dans certaines zones de la région. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Cette école de la sous-division Moba 1 dans les territoires de Moba, province du Tanganyika, sont touchées par des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika et les débordements de la rivière Mulobozi. Cette situation dure depuis le début de cette semaine. Parmi les écoles touchées, il y a l'EP1 Muhila, l'Institut 2 Lunkenta et l'Institut Nganye. Conséquence, des centaines d'élèves n'étudient pas normalement. Le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Moba, demande aux autorités de s'impliquer pour une solution. Les propos de Placide Muyumba sont recueillis par Paul Mounanga.
La situation est alarmante parce que nous avons commencé à alerter les autorités, les gouvernements provinciaux comme national, mais jusque-là, rien n'est encore fait. On vient d'abord d'enregistrer les cas de l'Institut Nganye, les cas de l'EP Kashiba, les cas de l'EP Mwila, également l'Institut Lukenta qui continue toujours à patauger dans des situations anormales. Les enfants n'ont pas encore trouvé où est-ce qu'ils vont étudier. Certaines choses, nous ne devons pas encourager, rester calme. Nous demandons quand même au gouvernement de s'impliquer valablement parce que ce sont des écoles de l'État. L'État doit avoir un air gardant face à ces écoles pour également sauver ces enfants-là depuis le mardi qui ne trouvent pas l'accès aux cours. Tout ça, c'est le problème de la rivière Mulobozi. S'il faudrait qu'on nous apporte des engins et qu'on puisse orienter la rivière vers un autre passage. Bon, et les conséquences est que les enfants vont rentrer les cours. Ils seront en retard du programme national comme défini par le ministère de l'Éducation.
Contacté, le sous-prophète de l'enseignement Moba 1 confirme l'information. Isidore Kabebe indique qu'une solution palliative est déjà trouvée. Certaines écoles victimes des inondations sont délocalisées et vont fonctionner dans d'autres bâtiments en attendant une solution durable. Situation similaire dans la cité de Kimpese au Congo central. Plus de 1000 élèves n'étudient pas depuis le 8 janvier dernier et près de 200 familles se sont retrouvées sans abri. Une douzaine d'écoles et près de 200 maisons d'habitation ont été détruites par une pluie torrentielle accompagnée de vents violents qui s'est abattu sur Kimpese dans la nuit de mercredi 7 à jeudi 8 janvier. Le sous-prophète de Songololo 1, Emmanuel Mbiavanga Mbunga, qui livre cette information à Radio Kapi, s'est dit fortement touché et appelle les autorités à remédier urgentement à cette situation qui empêche la bonne reprise de cours après le congé de Noël et de Nouvel An. Nana Plurich Mambou, reportage.
Les établissements scolaires touchés par cette pluie torrentielle sont notamment les instituts Vuzilandu et André Wameso, ainsi que des écoles primaires Vuzilandu et Zizila. Si dans certaines, les toitures ont été complètement emportées, exposant et endommageant des documents administratifs, dans d'autres, ce sont des bâtiments qui se sont écroulés. Le sous-prophète de Songololo 1 n'a fait que constater les dégâts. Il est désemparé. Emmanuel Mbiavanga.
J'ai des larmes aux yeux. Quand l'enfant ne va pas à l'école, moi, je suis mal à l'aise. Il y a plus de 1000 élèves qui n'étudient pas à cause de ces dégâts. Je demande aux autorités de nous venir en aide.
En dehors des écoles, cette pluie accompagnée d'un vent violent a aussi laissé 200 familles sans abri, leurs maisons étant dévastées. Sylvain Matutanga, coordonnateur de la société civile de Songololo, affirme que ces sinistrés n'ont jusqu'à présent reçu aucune assistance des autorités.
Nous nageons déjà vers 200 maisons qui ont été détruites. Des sinistrés qui sont abandonnés à leur triste sort. L'SOS est lancé auprès des autorités pour qu'ils puissent au moins chercher des solutions appropriées pour cette réalité.
Le secteur de la santé n'a pas été épargné. Un bâtiment du centre de santé Saint-Thaddée s'est effondré sous cette même pluie, compliquant ainsi l'accueil des malades. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
La pluie torrentielle accompagnée des vents violents n'a pas non plus épargné plus de 500 élèves des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni, au nord Kivu, qui sont sans abri depuis vendredi soir. La protection civile plaide pour la réhabilitation urgente de ces bâtiments scolaires pour permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Marc Marofimbo, reportage.
Au moins 8 salles de classe, un bureau et 10 toilettes des écoles primaires Kilewe et Mbene dans la ville de Beni ont perdu leur toiture emportée par les vents violents qui a soufflé sur la ville de Beni vendredi soir. Tous les documents administratifs ont été endommagés par ces intempéries. La protection civile parle d'une situation catastrophique et appelle à réhabilitation urgente de ces bâtiments pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Jean-Paul Capitula est le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni.
C'est une urgence. Nous demandons tous les humanitaires, le gouvernement, que nous puissions venir auprès de ses enfants, les aider, étudier sous le soleil ardent. Et s'il pleuvait encore une fois, je ne sais pas quel sera le sort de ses enfants. 10 lunettes de toilettes, les latrines, ont été aussi emportées par le vent. Donc ces enfants, on ne sait pas, ils vont faire les liens d'aisance où? Parce qu'à ce moment ici, il n'y a plus de liens d'hygiène. C'est un danger pour développer des épidémies pour ces enfants. Il faut que tous ceux qui ont la bonne volonté puissent mettre la main sur la patte pour que les deux écoles puissent avoir une assistance urgente, surtout la réhabilitation urgente de ces 8 salles de classe qui ont été touchées. Si nous voulons investir dans ces enfants, c'est urgent que nous puissions venir les secourir pendant ce moment ici où ils sont touchés par une catastrophe.
Dans la commune de Moulekera, des murs des maisons se sont écroulés, causant également d'importants dégâts matériels. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En Ituri, les forces conjointes FRDC-UPDF mènent depuis mardi des opérations de traque contre les rebelles des ADF dans les localités de Kolokolo et de Banjou-Banjou, situées en profondeur de la forêt en territoire de Mambasa. Cette offensive intervient après une attaque des ADF contre une position de l'armée qui a fait une dizaine de morts, rapporte des sources concordantes. Bilan non encore confirmé par des sources officielles. L'objectif de ces opérations en cours depuis un mois est de démanteler les bastions de ces rebelles dans la chefferie de Babilaba Kwanza afin de permettre à la population d'évacuer librement à ses occupations. Reportage d'Isaac Rimoyope rendu par Gide Mystère Bilanda.
Cela fait plusieurs mois que les rebelles de ADF ont établi leur bastion en profondeur de la forêt dans la chefferie de Babila Bakwanza à environ 100 km au sud-ouest de Bounia. Depuis ces positions, ils planifient et lancent des attaques contre les populations vers les localités de Lolwa et Mungamba, les long de la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda Mambasa, déclare la société civile locale. Les forces de l'ordre figurent également parmi leurs cibles. Par ailleurs, ces rebelles imposent des taxes illégales aux agriculteurs pour accéder à leurs champs. Face à la persistance de ces menaces, les forces conjointes FRDC-UPDF ont lancé depuis près d'un mois des opérations de traque qui ont infligé des lourdes pertes aux ADF, dont nombreux sont désormais en débandade selon des sources sécuritaires. Après cette défaite, un groupe de rebelles en fuite a attaqué mardi une position des FRDC dans les villages de Kolokolo et Banjou-Banjou. Les bilans provisoires font état d'une dizaine de militaires des FRDC tués ainsi que leur campement incendié, ajoute les mêmes sources. Et notre groupe de militaires est tombé mercredi dans une embuscade des ADF dans la même région. Les sources officielles n'ont pas encore communiqué sur ces incidents. L'armée a depuis renforcé ses effectifs et intensifié les opérations de traque de l'ennemi.
Pendant ces temps, les populations qui ont fui le village de Kassenda Numbi, dont les Maniema vivent dans des conditions précaires. D'après la société civile de Kailo, ces personnes ont quitté leur milieu, redoutant des probables affrontements entre les Wazalendo et les militaires des FRDC. Certains déplacés sont dans les forêts où ils passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres sont arrivés dans la ville de Kindu dans des familles d'accueil. Patrick Kapamba, premier vice-président de la société civile de Kailo, appelle à l'accélération en province du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS pour débarrasser la province de ceux qui détiennent illégalement les armes et qui sèment la terreur. On l'écoute dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Il y a la psychose suite à l'arrivée des non-phares décès au village Kasenganumbi parce qu'il y a eu les Wazalendo qui sont restés là-bas il y a longtemps. Il y a d'autres populations qui sont allées à la forêt. Les autres, ils ont déménagé vers Kindu dans des familles d'accueil. Alors, nous demandons aux autorités provinciales de prendre en charge cette population qui vit sous la belle étoile, ceux qui sont à la forêt, parce que nous évitons à ce qu'il y ait la pire des choses et l'histoire se répète parce que c'est avec le même groupe de Wazalendo qui ont créé les bavures ici l'autre fois. Ils ont créé la psychose encore dans la ville de Kindu. Ces mêmes groupes de Wazalendo qui sont là-bas. Aux autorités tant provinciales que nationales de prendre en charge cette population qui vit maintenant sous la belle étoile. Et nous demandons aussi la sensibilisation des PDRCS parce que à Kailo, on nous apprend que PDRCS est à pied d'œuvre sous les désarmement de ces Wazalendo. Alors, nous sommes surpris encore aujourd'hui d'apprendre que ces mêmes Wazalendo, ils sont encore là.
Au Kasaï oriental, la commune de Bipemba est de nouveau secouée par des actes de criminalité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un agent de police et son enfant de moins de 10 ans ont été grièvement blessés par balle par les assaillants en tenue de la police. La bourgmestre de cette commune souhaite que le nombre des agents de police soit augmenté pour sécuriser ses administrés. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au quartier Kankelenga, un autre incident a failli tourner au drame. Un bandit armé a été neutralisé par les éléments de la police de proximité. Ces épisodes viennent s'ajouter à une série de cas de criminalité qui alimentent la peur dans cette municipalité. Madame Chizubu, vendeuse de légumes, dénonce la recrudescence des attaques et exprime son inquiétude face à l'absence de protection suffisante.
Ici chez nous, nous ne dormons pas depuis la période des festivités. Nous passons la nuit dehors pour avoir la possibilité de crier. Nous souffrons. Dès que les bandits font irruption dans une maison, ils passent à tabac des propriétaires. Ils tuent et emportent tous les biens de valeur. Nous ne pouvons plus lever le ton. C'est difficile.
La bourgmestre de la commune, Irène Balaï, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à un renforcement des effectifs policiers afin de mieux sécuriser ses administrés. Esther Dalafina Boujimaï, Radio Okapi.
Et puis, un grave accident de circulation s'est produit le soir d'hier, vendredi 9 janvier, à Matadi, dans la province du Congo central, dans les territoires de Songololo, à quelques mètres du pont Pozo, sur la route nationale numéro 1. Il s'agit d'un véhicule transportant du charbon pour la société KVS, victime d'une panne de frein qui a percuté plusieurs motos en pleine circulation. Selon la police, les bilans provisoires fait état des 6 morts, dont une femme et son bébé. D'autres victimes pourraient être signalées. Les opérations de secours se poursuivant encore sous les véhicules impliqués dans le drame. C'est pour la troisième fois qu'un véhicule de la société KVS est cité dans un cas d'accident sur cette même tronçon. Une situation qui relance les débats sur la sécurité routière et les contrôles techniques des véhicules poids lourds. Cette bonne nouvelle avant d'aller plus loin, la ville de Chimbulu dans le Kasaï central est électrifiée pour la première fois depuis son existence. Les premières lampes se sont allumées en début de cette semaine grâce à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER. D'après Alexis Molomba, coordonnateur de pôle de l'ANSER pour les Grands Kasaï, ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement congolais. Deux centrales photovoltaïque d'une capacité totale de 200 kW desservent la ville en électricité. En dehors de l'éclairage public, les ménages en sont aussi des bénéficiaires. On écoute Alexis Moulomba au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
Le projet de la ville de Chimbulu fait partie de ce que nous avions appelé à l'époque le PIP, c'est-à-dire le projet d'investissement prioritaire qui ont été lancés par ANSER dans les Grands Kasaï depuis 2022. Des projets qui sont entièrement financés par l'État congolais, qui consistent à construire des microcentrales photovoltaïques. Le projet en tout pour Chimbulu fait un total de 200 kW. L'éclairage public faisait partie de notre première étape d'implémentation du projet. Et la deuxième phase consistait à finir soutenir la construction des centrales. Et qui dit centrale dit l'électrification aussi bien des ménages que des activités à usage productif. Je confirme que ce projet tend à apporter l'énergie au sein de ménages qui habitent la ville de Chimbulu. Donc la population pourra y bénéficier pour les activités domestiques et voire même les activités à usage productif. Le lancement de la deuxième phase a commencé par éclairer certains bâtiments qui ont bénéficié déjà du courant parce qu'ils avaient mis à jour leurs installations électriques.
Actualité internationale.
Le conflit au Soudan dépasse ce week-end les seuils symboliques des 1000 jours et pourtant ces pays s'enfoncent toujours plus dans une guerre qui s'enlise sans horizon politique visible. La population subit violences meurtrières et déplacements forcés avec des conditions de vie désastreuses. Elle souffre du manque de nourriture, des médicaments et est ravagée par les maladies. La réponse humanitaire est largement insuffisante en raison des difficultés d'accès. L'absence de perspectives de solutions politiques et la gravité de la situation tiennent autant à l'ampleur des violences qu'à l'absence de réaction internationale sérieuse.
L'invité.
Nous recevons comme invité Mathieu Yaliré, chercheur au département de géochimie de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il revient sur les menaces permanentes liées au gaz toxique appelé mazoukou, un dioxyde de carbone naturellement présent dans certaines zones de la région. Ce phénomène a encore causé une victime dernièrement au quartier Lac Vert à l'ouest de Goma. Un agent de sécurité chargé de surveiller une concession privée y avait été retrouvé mort par asphyxie, s'ajoutant à la liste déjà longue des personnes touchées par ces dangers naturels. Écoutons Mathieu Yaliré, interrogé par Bernard Nyangi.
Monsieur Mathieu Yaliré, bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le gaz mazoukou?
Le mazoukou, ce sont des dépressions contenant une grande concentration de dioxyde de carbone. Ces dépressions-là sont nombreuses dans la ville de Goma, spécifiquement dans les quartiers le long du versant nord du lac Kivu. Par exemple, les quartiers Himbi, Keshero, Lac Vert. Et ces dépressions avancent même jusqu'au niveau de la cité de Sake.
Et dans cette zone de lac vert jusqu'en Zolo, les sites à forte concentration de ces gaz mortels sont-ils marqués?
Dans ces quartiers-là, quelques sites avaient été marqués dans le temps, depuis 2003. Cependant, les panneaux avaient été arrachés à certains endroits considérés comme des parcelles des individus. Et cela exacerbait bien sûr le risque d'exposition de la population à ces gaz mortels. Il faut signaler aussi que dans d'autres sites, les panneaux y existent encore, mais ont sérieusement vieilli et n'ont pas pu être remplacés, faute de moyens, par l'Observatoire volcanologique de Goma.
Quelles autres conduites à tenir vous pouvez proposer ou bien conseiller à la population pour prévenir les risques de ces gaz toxiques?
Les populations devraient en fait être extrêmement prudentes et ne pas avoir l'habitude de s'asseoir par terre n'importe où et doivent être aussi attentives aux conseils des agents de l'OVG. Celles dont les panneaux sont encore visibles dans leurs parcelles, elles ont le devoir de les protéger et de les conserver aussi en vie, de ne pas exposer la vie des autres. Parce que la plupart des fois, les gens qui meurent dans ces endroits, ce sont des gens qui sont très très mal informés et comme il n'y a pas de signaux indicateurs et donc ils y entrent, ils peuvent s'y asseoir et y faire n'importe quoi et même y mourir parce que il n'y a aucun signal qui montre que c'est un lieu très dangereux. Et donc vous comprenez que si vous arrachez les panneaux, c'est que vous exposez la vie des autres.
Et peut-être pour terminer, quelle différence faites-vous entre le mazoukou à la surface, sur la terre ferme, et le gaz carbonique dissous dans le lac Kivu et qui fait, comme vous le savez aussi, des victimes très souvent?
C'est le même gaz. En fait, c'est le même dioxyde de carbone qui est dans le mazoukou et qui est aussi dans le fond du lac Kivu. Mais le problème, c'est que le COD qui est dans le mazoukou, il est sur la terre ferme. Et celui qui est dans les lacs qui vous, il est dissous dans les eaux. Mais le risque reste le même, celui d'asphyxie des individus. Mais c'est le gaz qui est dans les eaux des lacs qui vous, c'est un gaz qui est vraiment en profondeur. Parce que les recherches qui ont été faites montrent que le dioxyde de carbone commence à environ 60 mètres à partir de la surface. Et donc, pour y arriver, c'est difficile que ça puisse asphyxier les gens, sauf au niveau de Kaboun-Pié, bien sûr, qui est un lieu assez spécifique où le dioxyde de carbone est à peu près 11 mètres partie de la surface. Et donc, on ne peut pas comprendre que le dioxyde de carbone qui est dans les lacs Kivu puisse faire des dégâts au niveau de la surface parce qu'il est très très profond. Mais le problème qui est là, c'est que sur les côtes, il y a la sortie de dioxyde de carbone de Mazuku. Et si quelqu'un qui nage, par exemple, juste à côté du flanc nord du lac Kivu, comme nous avons dit que ce sont les quartiers qui sont au bord du lac Kivu qui sont les plus concernés, entre autres les quartiers Himbi, Keshero, Lac Vert, si vous nagez, par exemple, à côté de flanc, donc ça montre que vous pouvez être atteint par le gaz qui vient de Mazuku et qui est non loin du lac, mais qui se trouve en fait sur la terre ferme, mais qui prolonge jusque vers les eaux du lac.
Monsieur Mathieu Alire, merci et bonne journée.
Merci beaucoup et bonne journée.
C'était notre invité Mathieu Yaliré qui s'entretenait avec Bernadette Nyangui et c'est ce qui met fin à cette édition de la mi-journée coordonnée et supervisée par Jude Mister Bilan Dankoumar et Jean-Gandou Kabongo et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis chers auditeurs et bonne suite des programmes sur votre radio.